Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Séquence Midi, c'est en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda, des reportages et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, petit retour grâce à nos étudiants apprentis reporters sur le festival Raison d'agir. Ce sera en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, on va faire un petit tour en moto en compagnie de Manuel Repentin qui est coordinateur de la Fédération française des motards en colère dans la Vienne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, puisque vous prévoyez dans toute la France une manifestation ce samedi 13 avril contre le contrôle technique des deux roues. Et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Alors ce contrôle technique, ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Peut-être on peut revenir un petit peu justement sur l'historique de ces un petit peu questionnements sur le contrôle des deux roues.
Donc effectivement, le contrôle technique, ça fait des années que ça dure, ça fait une dizaine d'années que c'est dans les tuyaux, ça fait une dizaine d'années que la Fédération française des motards en colère se bat pour qu'il n'y ait pas ce contrôle technique, puisqu'il y a d'autres solutions adoptées plutôt qu'un contrôle technique. Il faut savoir que la Commission européenne, elle ne dit pas qu'il faut un contrôle technique. Ça fait partie des éléments où il y a d'autres solutions, notamment les mesures alternatives qui ont été proposées par la FFMC, par la FFM, par différentes associations, en accord avec le gouvernement d'ailleurs, puisque ces mesures alternatives ont été retenues par le gouvernement et la loi a été abrogée.
Donc on va en parler de ces mesures alternatives, peut-être revenir un petit peu sur cette question de l'Europe, c'est-à-dire qu'elle impose quand même une certaine, un certain contrôle, même si ce n'est pas le contrôle technique, sur les motos.
Voilà, ce qu'elle impose, c'est diminuer l'accidentologie. C'est ce qui est dit. Après, c'est greffé dessus les problèmes d'environnement. Il faut savoir que le contrôle technique, il ne va pas résoudre aujourd'hui les problèmes de sécurité routière, les problèmes d'environnement et les problèmes de bruit notamment aussi, puisque ça a été un des points forts.
Donc oui, alors les arguments en faveur de ce contrôle technique, c'est d'abord la question de l'accidentologie. C'est vrai qu'on connaît le fort taux d'accidentologie malheureusement en moto, mais vous dites, vous, c'est pas lié aux motos en elles-mêmes.
Non, tout à fait. Alors le fort taux en moto, c'est pas vrai.
Par rapport à la voiture,
voilà. Disons qu'il est... Il est plus grave vu qu'on n'a pas de carrosserie.
C'est ça.
D'où notre sentiment, notre fragilité et le fait qu'on soit parfaitement conscient qu'on est sur un deux roues, qu'on fait de la moto et qu'on n'a pas de carrosserie. Donc on entretient nos véhicules autant que possible. Et si on ne sait pas faire, y a des professionnels qui sont là pour le faire. Alors que je ne sais plus trop où j'en suis, excusez-moi.
Non, on se disait l'accidentologie et donc...
Voilà. Alors, il faut savoir que sur la moto, un problème technique qui implique l'accident, en fait, représente 0,3% des accidents, ce qui fait que c'est très peu. C'est pour moi qui le dis, ça. Ce sont des études européennes qui ont été faites et qui ont restitué ces résultats-là. Il faut savoir que dans un accident de moto aussi, c'est 70% qui sont dus à une collision autre qui implique le motard, en fait, une voiture ou quelque chose, un animal aussi en ce moment, qui vient percuter, qui fait tomber la moto.
Ou l'état des routes.
Et bien sûr, l'état des routes qui nous préoccupe énormément en ce moment avec les différentes opérations qu'on peut mener partout en France, notamment avec Pâques et nos opérations Nid de Poule qui ont été organisées sur la Vienne notamment aussi.
C'est ça, c'est que actuellement pour vous, la priorité, c'est plutôt l'état des routes que d'aller embêter, entre guillemets, les motards sur l'état de leur moto.
Voilà, c'est ça. C'est un petit peu notre mot d'ordre en ce moment en disant, occupez-vous des routes, nous on s'occupe de nos motos.
L'autre argument, c'est la question écologique. C'est vrai que le bruit et le côté pollution.
Voilà. Alors on est parfaitement conscient que il faut rentrer dans cet espace écologique et la moto notamment en fait partie de cet espace écologique et on veut y participer. Il faut savoir que avec 10% de deux roues en plus sur une agglomération, c'est 40% de pollution en moins. Une moto aujourd'hui, elle reste pas bloquée dans un embouteillage. Une voiture, quand on est coincé, on est coincé, le moteur il tourne, une moto elle continue à avancer.
Donc pour les déplacements individuels, pour vous, c'est une meilleure solution que la voiture, quand on est seul, quoi. ou deux.
Voilà, quand on est seul. Alors, il n'y a pas que la moto, évidemment. Il y a les vélos.
Voilà.
Donc ça, ce sont pour la population urbaine. Mais quand on habite en campagne comme moi, bah, se déplacer en deux roues, c'est indispensable, ne serait-ce que bah, pour dire en milieu urbain, on n'a pas le choix.
Donc quand on n'a pas le choix de devoir prendre quelque chose de motorisé, le plus écologique pour vous, c'est la moto. En tout cas, c'est ce que vous essayez de faire comprendre.
Et c'est une passion aussi quand même.
Bien sûr, c'est surtout une passion et c'est ça qui...
C'est surtout une passion, oui.
C'est ça qui vous met sur les routes. La question du bruit, est-ce qu'on peut effectivement en parler? C'est vrai qu'en milieu urbain, ça peut poser problème, et même en milieu rural.
Alors c'est vrai, la FFMC, ça fait déjà 43 ans qu'on se bagarre un petit peu justement pour la sécurité du motard. Et cette notion de bruit, elle arrive, elle est là, elle est présente, on ne peut pas la nier. Et c'est vraiment une minorité de motards ou de personnes qui font du bruit. Et ces gens-là, ils sont parfaitement conscients qu'ils font du bruit. On est les premiers à pester après eux parce qu'ils ne nous rendent pas service, ces gens-là. Ils ne nous rendent pas service. Il faut savoir qu'un contrôle technique, par exemple, pour parler du bruit, un pot d'échappement, c'est très vite remplacé. Donc quelqu'un qui a envie de faire du bruit, il va mettre un pot d'échappement d'origine, il va passer son contrôle, et puis dès qu'il a tourné les talons, il va remettre son pot qui fait du bruit. Donc voilà. Donc
c'est une incivilité,
c'est
un problème de contrôle de la moto.
Voilà, c'est pour ça qu'on est plus nous sur la compréhension pourquoi on fait du bruit. C'est pas bien de faire du bruit. On intervient notamment sur les lycées, dans les collèges, pour un petit peu éduquer les jeunes, nos futurs motards en fait, qui vont nous remplacer sur les routes.
Alors pourquoi, alors là on a bien compris pourquoi le contrôle technique se met en place. Vous, quelles sont les raisons qui font que vous n'êtes pas favorable à cette mise en place?
Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, il ne va pas résoudre les problèmes de sécurité routière, on en a parlé, d'environnement non plus, puisque une moto ne fait pas plus de pollution qu'une voiture. Et le bruit, comme je vous ai dit, on peut le remplacer. Et un motard, et ça fait partie en fait de sa formation quand on passe le permis, on apprend à contrôler sa moto, à contrôler ses pneus, à contrôler ses freins, à contrôler sa chaîne. Et tous ces éléments-là, en fait, le contrôle technique, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, c'est ce qu'il va faire. En fait, il ne va pas faire un contrôle de conformité, mais il va faire un contrôle de sécurité, que nous, on sait faire déjà quand on monte sur une moto. Quand on monte sur une moto, il faut savoir que si la moto n'est pas entretenue, c'est l'hôpital direct. Donc on est parfaitement conscient qu'il faut sécuriser nos motos. Et c'est ce qu'un contrôle technique aujourd'hui va faire, et en plus il va falloir le payer.
C'est ça, c'est qu'au final ça engendre un coût supplémentaire, sachant qu'une moto et son entretien, ça a déjà un coût.
Voilà, tout à fait. Les professionnels sont là pour entretenir nos motos, et un contrôle technique, il n'apportera rien du tout. Alors souvent on entend aussi parler de dire, mais oui, mais les jeunes avec les 50 cm3, c'est eux qui nous embêtent. C'est eux qui font du bruit, c'est eux qui ne respectent pas. Mais c'est un problème d'éducation. Ce n'est pas un problème de sécurité. Et l'éducation, justement, on essaye d'en faire, nous, dans les collèges, dans les lycées.
C'est ce que la fédération met en place, en fait.
Met en place depuis de nombreuses années avec les GRJ, ça s'appelle, en fait. En fait, des gens qui sont formés pour aller, justement, échanger avec les élèves, nos futurs motards.
Donc, normalement, ce contrôle technique s'applique dès ce mois d'avril, là, dans quelques jours. Hein.
Oui, il s'applique le 15, tout à fait, obligatoire.
Le 15 avril. Donc là, vous appelez-vous à un boycott. Hein.
Alors, effectivement, on appelle à boycotter ce contrôle technique, puisqu'il n'apportera absolument rien. Alors, le principe aujourd'hui de... Bon, chacun est responsable, évidemment, on ne va pas obliger... couteau sous la gorge, à boycotter. Chacun est responsable en son âme et conscience. Et l'idée, c'est de boycott, c'est de dire, écoutez, messieurs les contrôleurs, on fait de la moto, c'est vrai, on a des motos, mais aussi on roule en voiture. Donc si vous pratiquez le contrôle moto, on amènera nos voitures chez quelqu'un qui ne fait pas le contrôle des motos. Donc je pense qu'il y a un petit manque à gagner, un gros manque à gagner, je pense, de leur part.
Vous espérez qu'ils vont vous soutenir peut-être dans votre mobilisation?
Alors oui, certains contrôles techniques effectivement nous soutiennent, notamment je pense aux petits indépendants qui eux n'ont pas les moyens de concurrence, enfin pas de concurrencer, mais d'être à la hauteur des grands groupes de contrôles techniques qui, autre parenthèse, ont fait un lobbying énorme au niveau de l'Europe pour faire passer cette loi de contrôle technique et non de mesures alternatives.
Donc, il y a la question des compagnies d'assurance aussi. Qu'est-ce qu'elles en pensent, elles?
Alors, qu'est-ce qu'elles en pensent? Alors, il y a la Mutuelle des motards, chez nous, qui ne dit rien, qui n'a pas besoin d'un contrôle technique. D'autres assurances, pareil, n'a pas besoin d'un contrôle technique pour assurer son véhicule. Aujourd'hui, c'est pas noté, en fait. Dans les contrats, il n'y est pas. Mmh, mmh. Donc, tant que l'assureur ne dit pas on modifie le contrat, il n'y a pas besoin du contrôle technique.
Et aujourd'hui, si jamais il y a un accident, qu'on se rend compte que c'est un défaut technique, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça va être, je ne veux pas dire que c'est le problème de l'assureur, mais effectivement, il va probablement jouer sur ce fait-là.
Mmh. Et se retourner contre l'assuré.
Bon, 0,3%.
Oui,
des accidents, ça reste quelque chose de minime.
Alors, pour répondre quand même aux exigences européennes, puisqu'on n'a pas trop le choix que de s'y plier en France, quelles sont les autres solutions alternatives que vous proposiez ?
Alors, les solutions alternatives qui ont été proposées ont été, par exemple, la formation, évidemment. Il y a eu la formation, le fait aussi, les petits encarts qu'on voit sur les camions.
Oui, comme quoi ils ont pas, voilà, ils voient pas l'angle mort.
Ils voient pas l'angle mort. Il y a aussi le fait de passer sur le boîtier éthanol. Aujourd'hui, une voiture, elle peut passer en boîtier éthanol, une moto, on n'a pas le droit. On n'a pas de prime à la conversion. Donc ce sont des choses aussi qui ont été demandées sur les mesures alternatives.
Donc ça, c'est toute la partie écologique.
Oui.
Voilà, vous pouvez pas, c'est interdit pour l'instant de rouler à l'éthanol en moto.
Bien sûr, bien sûr. D'accord. On peut pas, c'est interdit, on peut pas.
Vous seriez prêt à le faire ?
Bien sûr. D'ailleurs, il y a des kits qui sont proposés, hein. Mais on n'a pas le droit. On ne peut pas modifier sa carte grise comme ça.
Donc, meilleure formation, une autorisation en tout cas de passer à l'éthanol pour polluer moins. Aujourd'hui, quels sont vos espoirs, sachant que la loi est votée et qu'elle entre en application là dans quelques jours ?
La même chose qui a été faite l'année dernière, c'est-à-dire l'abrogation de la loi, tout simplement. Qui est inutile.
Mmh. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des retours du gouvernement par rapport à ça, sachant effectivement que ça a déjà été repoussé à plusieurs reprises ?
Alors, bien sûr. Il faut savoir que la FFMC, donc la Fédération française des motards en colère nationale, a posé trois recours au niveau du Conseil d'État, donc sur le fond et sur la forme, au même titre que chaque citoyen peut accéder à ce Conseil d'État. Donc on attend les réponses, les résultats de ce Conseil d'État.
Et donc, vous vous mobilisez en attendant ce samedi 13 avril. Qu'est-ce qui est au programme ?
Alors, on va se réunir, nos copains de la 37, d'à côté de chez nous, là, vont nous rejoindre. Et puis, on va faire un petit parcours dans Poitiers. On va déranger le moins possible les gens et se retrouver donc à la préfecture, en demandant un entrevue avec un représentant de la préfecture et présenter nos doléances et notamment à la fin leur demander d'abroger cette loi. Faut savoir aussi que bon nombre de députés, de sénateurs sont contre ce contrôle technique. Merci.
vous êtes soutenu par certains députés et sénateurs, la Vienne aussi.
Oui. Preuve en est puisque ça a été cette loi a dans un premier temps a été abrogée. Donc signe quand même qu'on a fait des choses intéressantes avec le gouvernement. Pourquoi ce retournement de situation, quoi ? On se sent un petit peu poignardé.
Mmh. En tout cas, pour vous, c'est pas abouti, la réflexion n'est pas aboutie. Et pour tous les automobilistes qui diraient « Oui, mais nous, on l'a bien le contrôle technique, pourquoi les motards, ils n'y auraient pas droit ?»
Défendez-vous. Donc, faut un petit peu d'histoire quand même. Le contrôle technique sur les véhicules à l'époque, de mémoire, je crois que c'était 17% d'accidents qui étaient dus à un défaut technique d'un véhicule.
C'était plus important en tout cas, voilà, que pour la moto.
Voilà, c'était beaucoup plus important. Et aujourd'hui, on peut peut-être se poser la question. Il y a beaucoup de véhicules neufs, il y a beaucoup de leasing, le parc automobile évolue tellement vite maintenant.
Oui, peut-être qu'il y a un entretien plus régulier qu'avant.
On peut peut-être se poser la question. Est-ce qu'il y a une étude a été faite ? On ne sait pas. Toujours est-il que, par exemple, pour le contrôle technique moto, il y a une... Alors, je ne dirais pas le bon terme parce que je ne me rappelle plus. En fait, il y aura un retour qui sera fait dans un an ou deux, je ne sais pas, sur le contrôle technique. Est-ce utile ou pas ?
D'accord.
Est-ce que ça a amélioré la sécurité ? Oui ou non ?
Donc une enquête, un petit bilan de la mise en place de ce contrôle technique.
Voilà.
Un grand merci Manuel Repentin, donc coordinateur de la Fédération française des motards en colère dans la Vienne. Et donc le rendez-vous, le départ du cortège se fera à 14h sur le parking du parc des expositions à Poitiers. Mais vous y serez plus tôt puisque vous accueillerez donc vos amis de Tours.
Tout à fait.
Donc, merci.
Je compte
bien.
Énormément sur les motards de la Vienne aussi, bien sûr. Ils sont chez eux, il faut qu'ils se manifestent.
Merci beaucoup d'être venu dans Séquence Midi. Et donc attention, peut-être qu'il y aura un petit peu de perturbation samedi après-midi dans les rues de Poitiers. Merci beaucoup. On continue en musique avec Bam Bam's Boogie. Le titre Mescaline, c'est de l'électro soul. C'est un trio formé à Berlin en 2022, composé de l'américain Kiko King à la voix, de l'italien Jacopo Aluzzi à la basse, au clavier et à la programmation, et de l'irlandais Giotto Beats à la batterie.
Surtout, la confusion dans la clarté.
Pulsar, c'est bon.
D'accord, personne ne dit le contraire.
Point d'exclamation.
Pendant tout ce premier semestre 2024, les étudiants de l'université de Poitiers font un UE d'ouverture, une unité d'enseignement d'ouverture en deuxième année de licence, et certains le font dans l'engagement associatif, dont une douzaine à Radio Pulsar. Louis fait partie de cela et il a réalisé un reportage dans le cadre du festival Sport, Corps et Politique. Ça avait lieu jeudi dernier, le 4 avril, et a assisté à la diffusion du court-métrage Espace d'Éléonore Gilbert, du film Workers' Cup d'Adam Sobel et de l'échange organisé par le sociologue Guillaume Cuny au TAP Castille à Poitiers. On écoute ça tout de suite.
Le winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Le jeudi 4 avril, la ville de Poitiers s'est mobilisée du côté du cinéma TAP Castille et également à l'espace Mendès France à l'occasion de la 18e édition du festival Raison d'agir. Raison d'agir est une association qui a pour objectif de créer une réflexion collective autour des sujets sociaux et politiques. Ce festival a reçu de nombreuses personnalités publiques telles que Sandrine Rousseau, députée écologiste. Lors de cette 18e édition, le festival Raison d'agir ouvre ses portes au public en consacrant la journée à la thématique du sport, du corps et de la politique. Au programme, diverses conférences tout au long de la journée à l'espace Mendès France, suivies de la diffusion d'un court-métrage d'un film intitulé Workers' Cup et d'une session d'échange avec le sociologue Guillaume Cuny, doctorant en 5e année de sociologie au centre Pierre Naville d'Évry et également membre de l'association Raison d'agir.
Donc l'idée, c'était de faire un festival qui s'inscrit un peu dans l'actualité, étant donné que c'est l'année des Jeux Olympiques. Donc sport, corps, politique, on s'inscrit dans des thématiques qui sont d'actualité et on a voulu traiter le sport, mais peut-être différemment que comme il est proposé, on va dire, dans les médias mainstream, comme sport vantant la performance, des corps qu'on voit traditionnellement et poser la question des corps qu'on ne voit pas. Et politique, eh bien, c'est de dire que le sport et la politique peuvent être intrinsèquement liés. C'est ce qu'on a essayé de proposer à travers des conférences et la projection de ce soir. On pourrait dire l'ADN de l'association Raison d'agir. Donc c'est un festival qui cherche à faire échanger des universitaires, des militants, des personnes de la société, des professionnels.
Cette journée, organisée par l'association Raison d'agir, a permis de créer un lien avec le public en retraçant l'histoire et les conceptions sociologiques du film.
Bah derrière il y a tout le travail de Pierre Bourdieu, en fait, qui c'est un peu ses préceptes, quoi, qu'on essaye de mettre en œuvre. Qu'il s'agit de lutter contre les dominations sous toutes leurs formes. Et le sport est un lieu où s'exercent les dominations. Domination liée au genre, domination liée à l'origine ethnique, domination liée à l'origine géographique. Donc, alors, en tant que sociologue, je considère avoir un regard et une distanciation.
Ce film exprime en effet les théories bourdieusiennes en parlant de football d'en haut et de football d'en bas. On y retrouve une vraie modélisation, une vraie conception des rapports sociaux. Mais également dans ce film, on retrouve une vraie portée politique.
Et pourtant, ce qu'on remarque quand on voit les joueurs en action, c'est que c'est éminemment politique.
Et du coup, là-dessus, j'imagine que vous en avez parlé si vous avez parlé de foot, mais c'est quand même quelque chose d'un peu particulier, précisément dans le football, cette espèce de sport qui ressemble un peu à une religion quand même, et qui peut faire penser à chacun qu'il va un jour être tout en haut, en tout cas que...
Oui, et encore une fois, c'est en tant que footballeur qui veulent être reconnus et pas en tant qu'ouvrier. Donc là, peut-être qu'on perd quelque chose parce que la reconnaissance en tant que collectif, en tant que groupe, se ferait plutôt sur la base du football que sur cette identité ouvrière qu'ils ne veulent pas, donc ils ne tirent pas de fierté, de conditions communes. Enfin, c'est pas là-dessus qu'ils s'appuient, quoi, pour... Bah, ce que nous disait Manuel Chauté aujourd'hui, c'est que c'est là où c'était intéressant d'avoir une approche historique, c'est que c'est en fait assez récent football comme objet de promotion sociale d'un individu, et qu'en fait si on se replace dans l'histoire plus longue, le football comme spectacle, comme fait social total, il est finalement assez récent, il y a un siècle, je crois, quelque chose comme ça.
Ce que nous rapporte le sociologue dans son intervention, c'est d'abord ses ouvriers. Ces ouvriers qui s'émancipent à travers le sport malgré des conditions sociales difficiles. Pour le sociologue, jouer au football, c'est également pour ces travailleurs le fait de s'offrir une certaine paix sociale. On compte 60% de la population du Qatar qui est issue de l'immigration. Cela représente alors 1,5 million de personnes.
Bah, moi, j'ai adoré ce film parce que déjà, j'adore le foot et donc c'était rigolo. Il y a plein de dimensions politiques dans ce film, tout ça. Et donc, ce contraste entre le foot d'en haut et le foot d'en bas, bah, j'ai trouvé ça bien intéressant.
Merci encore pour l'invitation.
Merci à vous et bonne soirée.
Et merci à toi Louis pour ce reportage. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Face à face par Charlie Delisle, ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'au 3 septembre, une exposition au Jardin d'Images à Saint-Benoît. Depuis 10 ans, Charlie Delisle tire le portrait des araignées évoluant autour de son domicile Poitevin. Un matin, il y a une dizaine d'années environ, j'ai trouvé sur le pas de ma porte deux grosses araignées, une tégénaire et une lycose mortes côte à côte. Et c'est là que tout a commencé. Rendez-vous donc pour les renseignements auprès de l'Office de tourisme de Saint-Benoît. Midi musicaux aussi tout de suite là à 13h si vous êtes proche du rectorat. N'hésitez pas à vous rendre à ce concert tout public par les étudiants et étudiantes musiciens du pôle Aliénor. Ça dure à peine 30 minutes. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles. À 14h à l'espace Mendès France, là aussi pour tout public gratuit, rencontre avec Marie Bardio-Vaillante, une historienne et scénariste de la bande dessinée Bobigny 1972 aux éditions Glénat, qui revient sur l'affaire de Marie-Claire Chevalier. Marie Bardio-Vaillante écrit pour la bande dessinée des scénarios historiques ou d'actualité en lien avec ses préoccupations abolitionnistes et féministes. Pour ne citer que quelques-uns de ses ouvrages, elle a contribué à la création de Filles d'Oedipe, Les Reines de Sang, La Guillotine ou sa collaboration et direction éditoriale au collectif Féministe. Elle est scénariste chez Glénat de L'Abolition, consacrée au combat de Robert Badinter pour l'abolition de la peine de mort et de L'Enfer est vide. Tous les démons sont ici en 2021 sur le procès d'Adolf Eichmann. En 2024, elle publie Bobigny 1972 et Dans les couloirs du Conseil constitutionnel, projet en immersion dans l'institution. Militante, elle fait partie des membres actifs du collectif des créatrices de BD contre le sexisme créé à l'été 2015. Rendez-vous donc à 14h à l'EMF. Don du sang, c'est à 15h aujourd'hui à la une de Saint-Benoît. Attention, c'est sur rendez-vous, mais il suffit de vous rendre sur le site de l'EFS, l'établissement français du sang. Ce soir à 20h30 se prépare le Tour Alternativa. Ce sera une Vélorussion de Poitiers à La Rochelle et la première réunion pour vous impliquer, c'est à la maison du quartier d'Agibaudry ce soir à 20h30. Et on termine la soirée par de la salsa, de la bachata ou encore de la kizomba. C'est à 21h au République Corner avec DJ Alex de Poitiers Salsa, avec un petit cours pour se mettre en jambes à 20h pour un niveau débutant évolutif et puis ensuite danser toute la soirée. Sur Pulsar à 18h, And the Tap Drips, votre émission féministe en anglais. À 19h, c'est la bande dessinée avec X-Bull. Ce soir à 20h, dans Punks, cri de classe, cri de rage, cri du cœur, cri d'alarme. C'est une spéciale cri. Et puis de 21h à 23h, du live dans Scrognogneux. C'était Grégory à la réalisation technique. Merci à lui. On se quitte avec Alvin Amaizo. Il était membre du groupe d'Angoulême, Lehman's Brothers. Alvin Amaizo se lance maintenant en solo. Voici ce nouveau titre, Flow. Bonne écoute, à demain.
Just woke up, 8 o'clock, and my body feels so heavy. -3, some hot tea. All I want is to go slowly. I suddenly feel out of place. Oh no, it sounds so cliche. I swear I'm not there. It's only by wanting to describe you that I realize it doesn't make sense. Why can't I feel this flow around me? Why can't I lose myself in your eyes? It can be a little overwhelming, but I got some plans here on my mind. Unless you come to me and I'm your pretty smile, sending tears into love, it works every time. Am I going the right way? Or just straight into the wall?
It was meant to be a good day. My head advances.
Oh, regardez!